Réforme de la SNCF sur fond de dettes colossales, de dégradation du service public et de mauvais état du réseau des voies ferrées, on en parle avec Dominique Sens, représentant Nord-Pas-de-Calais de la Fédération CGT Cheminots. C'est à la fois la qualité du service et l'endettement de la SNCF qui ont commandé le rapport Spinetta. Est-ce qu'on peut faire une chronologie de cette débâcle?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de débâcle, mais en tout cas, nous, à la CGT, on dénonce depuis pas mal de temps la stratégie des gouvernements qui sont succédés au chevet de la SNCF. On a vu en 2006 ce qui est convenu d'appeler la libéralisation du fret ferroviaire, et on voit très bien que les objectifs des gouvernements de monter la part modale de transport de marchandises par fer à 20% s'est traduit par une part modale du ferroviaire aujourd'hui tombée à 9%. Les enjeux sont connus hein, depuis les Grenelles de l'environnement. Il y a aussi les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, dont le transport routier est grand contributeur. À la Fédération des cheminots, on est pour un équilibre des modes de transport qui privilégie les modes les moins polluants, tels que le ferroviaire ou le fluvial. Il s'agit de choix politiques.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut penser vis-à-vis de la qualité du service qui serait désastreux, et que penser aussi de la dette actuelle?
C'est un peu contradictoire avec les dernières annonces de bénéfices du groupe public ferroviaire. Maintenant, on ne peut plus parler de SNCF, on va parler de groupe public ferroviaire. Quand un groupe public fait du bénéfice, c'est contradictoire de dire qu'il faut encore le réformer, alors que la dernière réforme date de 2014. C'est un signe aussi de fébrilité de ce gouvernement de réformer si vite les services publics, ou alors il y a des objectifs non avoués, non avouables, qui sont se débarrasser là, des derniers grands services publics. Le projet Spinetta, on n'est pas dupe à la CGT, on avait bien vu la lettre de mission du gouvernement qui stipulait de ne pas remettre en cause justement ce qui était déjà engagé pour tuer les SNCF. Nous, à la CGT, on veut la défendre et on pense qu'on a besoin de tout le monde, en particulier des usagers, alors qu'on se considère client ou voyageur ou consommateur. Mais je pense que tout citoyen qui a besoin du train, il devrait se regrouper dans les associations pour le dire. Et c'est ce qui est en train d'être fait sur certains médias. Et je pense que le gouvernement doit peser pour ranger dans un tiroir le rapport Spinetta, le rapport Duron qui l'a précédé, et puis se mettre vraiment à une table de négociation, de concertation pour garantir le service public à la nation qu'a besoin tout citoyen.
Donc la SNCF peut être rentable à long terme?
Est-ce qu'un service public doit être rentable? Est-ce qu'un hôpital doit être rentable? Je ne pense pas, mais c'est dans les missions de tout gouvernement de rendre le train accessible à tout individu, en tout point du territoire. La rentabilité, elle peut être sociale, elle peut être vue socialement à cet effet. On voit sur la région que, par exemple, sur l'étoile ferroviaire de Saint-Paul, il y a un pan entier de la région qui risque de ne plus connaître le service public ferroviaire. Je ne pense pas que la population et les usagers locaux apprécieront.
L'argument de la dette semble être brandi pour mettre en balance l'investissement nécessaire à la modernisation du ferroviaire et la retraite des cheminots, dont on dit qu'ils sont des privilégiés.
La dette, il faut savoir de quoi on parle, c'est une dette qualifiée par la CGT de dette d'État, puisque c'est l'État, tous les gouvernements successifs, qui ont poussé la SNCF à financer à elle seule, donc à emprunter la construction des lignes nouvelles pour les TGV. Aujourd'hui, le TGV profite à tout le monde, encore aujourd'hui, on peut toujours qualifier ça de service public. Quant au chantage... Au chantage de dire il faut que vous acceptez des efforts et on reprendra une partie de la dette, on verra ça à la fin du quinquennat. Maintenant, nous on revendique de mettre en place une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire de l'État. Ça libérerait immédiatement le système ferroviaire du poids insoutenable des intérêts de la dette. Ensuite, la retraite des cheminots est un système particulier parmi beaucoup d'autres. L'alignement sur le régime général n'amènerait rien du tout, peut-être au contraire, aux retraités ou aux futurs retraités qui sont aujourd'hui au régime général. Ça fait partie du statut des cheminots qui est mis aussi en avant. Alors ça, c'est les vieilles ritournelles du patronat et des gouvernements, hein, avec des vieux poncifs poussiéreux tels que la prime de charbon ou la prime d'absence de prime. Ça en devient ridicule d'utiliser ces vieux poncifs. Et je pense que l'opinion publique est en train de prendre conscience que le statut des cheminots lui procure peut-être plus d'obligations qu'il ne lui procure certains avantages. À propos d'avantages, moi je parlerai plutôt de croquis sociaux, et je pense que tous les salariés seraient intéressés d'hisser leur niveau social à celui des cheminots, vu qu'il paraît plus avantageux que certains d'autres. Donc le statut, le régime de retraite, c'est pas la cause des retards récurrents qu'on vit au quotidien en TGV ou en TER, et puis des accidents qu'il peut y avoir.
Alors, quelles sont les propositions des syndicats, ou y a-t-il un plan, en tout cas, des syndicats pour faire face à cette dette et faire face à la rénovation du réseau qui, dit-on, est en mauvais état?
C'est une réalité qu'une partie du réseau est en mauvais état. On avait pris nos responsabilités sur la région Nord-Pas-de-Calais avec le comité d'établissement et Gilles Balbastre, un réalisateur, et on avait produit un film qui s'appelle « Vérité et mensonge », qui est toujours visible sur Internet, qui dénonçait l'état de délabrement de certaines installations qu'on n'entretenait plus, faute de moyens de pouvoir les entretenir. C'est ce qui s'est passé sur certaines lignes de la région, l'étoile ferroviaire de Saint-Paul, la voie unique Douai-Cambrai, et d'autres lignes qualifiées de « petites lignes », qualifié par le rapport Spinetta de non rentable. Il y a eu la réforme de 2014 et il y a eu les contrats de performance entre l'État et les EPIC de la SNCF, réseau propriétaire des infrastructures ferroviaires, qui disent que toutes ces lignes qualifiées de petites et ne seraient plus financées, leur régénération, leur remise à niveau, leur modernisation ne seraient plus financées. Sauf si c'est les conseils régionaux qui prennent en charge leur financement. Alors sur la région, Xavier Bertrand dit qu'il peut mettre jusque 50%, et il attend un geste de l'État. Mais sur la région, Franck Dersin, qui est vice-président au transport, dit l'argent qu'on mettra sur une ligne, on ne pourra pas le mettre ailleurs, de toute façon on ne pourra pas tout faire. Là aussi, je pense que les usagers de ces lignes ont tout intérêt à se mobiliser, comme certains ont su faire par exemple sur la voie unique entre Douai et Cambrai.
Il est aujourd'hui question de privatisation de la SNCF, enfin, on en voit le spectre, et également d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. On peut se demander si dans ces conditions, le transport est encore un service public, ou en tout cas, sera-t-il encore un service public?
En tout cas, pour la Fédération des cheminots, on va tout faire pour qu'il demeure. Hein. Aujourd'hui, la Fédération CET des cheminots dévoile son projet pour l'entreprise publique ferroviaire. Il y a une conférence de presse qui se tient aujourd'hui à Paris. Mes camarades de la Fédération vont déposer leur projet à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'ils seront reçus. Peut-être que le gouvernement leur fermera les portes. Et puis on va dévoiler dans la presse ce projet CGT. Donc on n'est pas dans l'obstruction, on n'est pas dans le sectarisme, encore moins puisqu'il y a une démarche unitaire au niveau national des quatre fédérations représentatives des cheminots. Le projet de loi du gouvernement va être dévoilé le 14, le projet du président Pépi le 15. Je crois que c'est les bonnes dates ou c'est l'inverse. Et donc les fédérations de cheminots ont décidé de se rencontrer le 15 au soir pour décider des suites à donner à la lecture de ces deux nouveaux documents. Bon, maintenant on n'est pas dupes. On voit bien que ce gouvernement, une stratégie, avance et refuse de nous entendre. Donc peut-être qu'il y aura grève à l'issue de cette réunion interfédérale du 15. En tout cas, on vise aussi une grande manifestation à Paris le 22 mars. Il y aura deux cortèges, bien sûr. Celui de la fonction publique, celui des cheminots, avec beaucoup de convergences. Convergence avec Minénergie et d'autres fédérations de salariés. Et oui, je pense que le transport public a de l'avenir. Le transport public ferroviaire a de l'avenir pour la réduction des gaz à effet de serre. pour l'aménagement du territoire et pour la réponse aux besoins des populations. Et seul le service public peut garantir un accès égal selon les individus en tout point du territoire.
Enfin, la prochaine convention TER pour 2019 devrait être signée. Donc ça concerne la gestion des TER par la région. Quelles conséquences peut avoir la réforme sur cette convention ?
Tout le monde a entendu les propos du président du conseil régional, Xavier Bertrand, qui s'énerve envers la SNCF. Alors il dit pas envers les cheminots, mais envers les directions de la SNCF, et qui veut en avoir pour son argent. C'est-à-dire que chaque euro du budget régional pour les TER doit aller au TER. Ça a toujours été le cas. La SNCF a toujours répondu au mieux qu'elle pouvait au cahier des charges de ces conventions TER. La particularité sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on avait une convention signée pour 10 ans par la précédente majorité au conseil régional, mais une clause de revoyure en 2018, cette année, pour harmoniser les deux conventions TER de la nouvelle grande région des Hauts-de-France, c'est-à-dire harmoniser la convention TER Nord-Pas-de-Calais avec celle de Picardie. Et il y a des différences notables, notamment sur la présence de ce qu'on appelle les contrôleurs dans les trains ou d'agents dans les gares, mais aussi sur l'avenir des petites lignes. Alors on entend M. Xavier Bertrand qui s'énerve contre les directions SNCF en disant « je vais faire appel à la concurrence ». C'est un vieux dogme libéral, souvent repris par les élus de droite. Nous, on sait en tant que syndicalistes, parce qu'on a des relations fréquentes, régulières avec nos camarades anglais ou allemands, l'ouverture à la concurrence, notamment en Angleterre, mais aussi en Allemagne, a amené des dégâts considérables et a fait augmenter les prix. L'ouverture à la concurrence, c'est pas la solution. Donner les moyens à la SNCF de répondre au mieux aux besoins de la population exprimés par le conseil régional, ça passe aussi par lui donner les moyens, donc désendetter l'entreprise publique. Avoir des effectifs constants, correctement formés pour assurer toutes les missions de service public en toute sécurité. Pour autant, on assiste à un mutisme complet du conseil régional, M. Xavier Bertrand, mais aussi M. Franck Dersin, vice-président transport, malgré nos relances régulières pour une rencontre unitaire des organisations syndicales du Nord-Pas-de-Calais, toujours pas de réponse. Même mutisme du côté de la direction régionale SNCF Nord-Pas-de-Calais qui se range derrière la confidentialité des négociations. Donc les salariés, les cheminots, peut-être pas premiers concernés, c'est les usagers les premiers concernés, mais les cheminots ne sont pas informés des négociations en cours entre la direction SNCF et le conseil régional Nord-Pas-de-Calais sur l'avenir des deux conventions TER Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
C'était un reportage de Luc Chaden pour Micro Rebelle et Radio PFM.